Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous ai dit dimanche dernier que tout chrétien était un contemplatif et que l'action a pour but de mettre de l'ordre en vue de faciliter la contemplation. Je voudrais prolonger aujourd'hui et vous parler de la charité. À quoi cela sert-il d'aimer Dieu? On pourrait répondre, cela ne sert à rien. En effet, si quelque chose sert à autre chose, ce qui sert, c'est dans l'Évangile, le serviteur est en dessous du maître. Celui qui aime son ami parce que celui-ci lui donne des chocolats prouve qu'il aime le chocolat plus que son ami. Pourquoi aime-t-on Dieu? On aime Dieu pour aimer Dieu. Il n'y a pas d'autre raison à aimer Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre raison à aimer Dieu que l'amour de Dieu. Cela veut dire que l'amour de Dieu est au-dessus de toute chose, il n'y a rien au-delà, rien de plus parfait. Et cela veut dire que l'amour de Dieu donne une plénitude. Une vie pleine de Dieu est une vie à laquelle il ne manque rien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que « qui a Jésus a tout ». Qui a Jésus a tout, qui a Dieu a tout. Je voudrais faire quelques applications pratiques. Première application, il est des cas, des situations dans lesquelles on ne peut rien faire d'autre que d'aimer Dieu. Et je vais même aller plus loin. Il y a des situations dans lesquelles Dieu ne nous laisse pas faire autre chose que de l'aimer. C'est le cas notamment des anges. Lorsque nous pensons aux anges, nous pensons souvent à l'ange gardien et nous nous disons « oui, les anges sont utiles ». Mais ce n'est pas cela. Quelquefois, nous nous disons « Dieu a des anges autour de lui parce que tout roi a une cour ». Mais ce n'est pas cela. Parce que si Dieu avait besoin d'une cour, Dieu aurait besoin de quelque chose. Dieu peut-il avoir besoin de quelque chose? Pourquoi Dieu a-t-il créé des anges? Il a créé des anges pour leur communiquer la perfection de sa sagesse et de son amour. Et les anges sont comblés par cela. Ils n'ont rien à chercher d'autre. Le bon Dieu fait de nous tous des anges de temps en temps. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Dieu nous prépare avec la vieillesse à être des anges dans le ciel. Mais il n'y a pas que cela. Dans certaines situations, on ne peut rien faire, on ne peut qu'aimer Dieu. Je pense notamment aux prisonniers des communistes, aux martyrs. Et aux martyrs que nous vivons aujourd'hui, d'assister quasiment impuissant à la destruction de la de l'Église, de la foi autour de nous, la destruction de la société, la destruction de la famille, bref tout. Et il faut regretter que tant de gens n'aiment pas Dieu, mais il faut que nous soyons absolument convaincus que même si nous n'y pouvons rien, c'est fort dommage pour eux, mais cela n'ôte pas la plénitude que nous donne à nous l'amour de Dieu. Je vous recommande une nouvelle fois de lire Ni la mort ni la vie du père Alagiani, et de lire également Rose U, Méprisons de Chine avec Dieu, et Walter Zizek, 23 ans avec Dieu au goulag. Deuxième, donc c'était la première application pratique qui doit nous rassurer actuellement. Deuxième application pratique, c'est que sans la charité, nos œuvres ne valent rien. Pourquoi ? Parce que nos œuvres sont toutes dirigées vers l'amour de Dieu, et si elles ne sont pas dirigées vers l'amour de Dieu, elles ne valent rien. Il est très fréquent, hélas, d'agir sans la charité. Vous avez ceux qui agissent contre la charité. Je rappelle que charité veut dire amour de Dieu et non pas amour du prochain. La charité veut dire amour de Dieu, et je vous parle uniquement de cela pour l'instant. L'amour du prochain est une conséquence de la charité. D'une certaine manière, la charité retombe sur lui, mais je suis justement en train de vous expliquer, parce que la confusion est très fréquente, de vous expliquer ce qu'est la vraie charité envers le prochain. Les œuvres qui ne sont pas faites dans l'amour de Dieu sont des œuvres sans valeur. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait sa voiture uniquement pour rouler sans aller quelque part. Si je prends ma voiture, c'est pour faire de l'apostolat, pour aller voir ma mère, pour aller voir un ami. Si je prends ma voiture pour prendre ma voiture, j'ai beau avoir fait des kilomètres, j'ai beau peut-être, un jeune aura-t-il klaxonné, se sera-t-il fait remarquer, aura-t-il eu une moto pétaradante, c'est rien. À l'inverse, une œuvre, si modeste soit-elle, est toujours grande quand elle est remplie de charité. C'est ainsi que la Sainte Vierge qui allaitait l'enfant Jésus faisait une œuvre beaucoup plus belle aux yeux de Dieu que le plus grand des martyrs. Parce que la Sainte Vierge avait un amour de Dieu qui dépassait le plus grand amour du plus grand de tous les saints et qui dépassait même... Je passe. C'est la même chose dans les œuvres apostoliques que nous avons à faire. Nous devons faire des œuvres belles et non pas des œuvres puissantes. Nous devons faire des œuvres qui sont pleines de l'amour de Dieu et non pas des œuvres dans lesquelles nous recherchons d'abord le résultat. Vous allez me dire, mais le résultat est important. Il est absolument certain que l'amour de Dieu donne, même concrètement, plus de résultats que la simple préoccupation de l'efficacité extérieure. C'est assez surprenant, mais Moins on cherche l'efficacité extérieure, plus on est vrai, et plus on est vrai, plus on est efficace. À l'inverse, plus on cherche l'efficacité extérieure, plus on est orgueilleux, moins on est vrai, et finalement, au bout du compte, que reste-t-il? Notre préoccupation, et là encore, c'est important, le bon Dieu, je crois, nous fait une grande grâce en nous obligeant à admettre que nous ne pourrons pas restaurer la société. Je n'ai pas dit qu'elle ne se restaurera pas, mais c'est Dieu qui le fera. Nous ne le pouvons pas. Il y a un risque, c'est de s'en accommoder. À ce moment-là, on fait comme les pharisiens. Il y a les bons, les purs, et puis les autres. Il y a un autre risque, c'est l'activisme, de s'emballer pour l'action. Plus la tâche est grande, on est fiévreux. Et la vérité, c'est que Dieu nous demande d'agir par rapport à lui. Et par conséquent, ce qu'il nous demande, c'est la beauté de nos actes, et j'allais dire la gratuité de nos actes. Et c'est certainement ce à quoi seront sensibles ceux même auxquels nous voulons faire du bien. Je ne vous dis pas que nous aimons Dieu pour que d'autres y soient sensibles, mais puisque nous sommes préoccupés malgré tout d'une certaine efficacité, il est certain que ceux que Dieu a attirés, parce que c'est Dieu qui les attire, il les attire à des choses riches, grandes, belles. Et nous savons tous que les choses gratuites sont nécessairement riches, grandes, belles, parce que justement, elles n'ont pas besoin d'autres récompenses qu'elles-mêmes. Et l'amour de Dieu n'a pas besoin d'autres récompenses que lui-même, et cela, les gens le sentent bien. Troisième application, si vous le voulez bien, il n'y a pas d'acte neutre. Tout acte d'un chrétien est soit un acte de vertu, soit un péché. Je touche là un sujet explosif, mais qui est très important. C'est un sujet sur lequel j'ai été souvent très mal compris par certains de mes confrères. C'est une chose que j'ai découverte pour la première fois avec le révérend père Sauzin, qui exerçait son ministère à Douai-la-Fontaine, et qui, dans un bulletin, expliquait cela. Soit nos actes sont dirigés vers Dieu, soit ils ne le sont pas. Je vous disais tout à l'heure, s'opposer à l'amour de Dieu, c'est le péché mortel. Traîner dans l'amour de Dieu, c'est le péché véniel. Et foncer vers l'amour de Dieu, c'est cela, la perfection. Soit un acte est posé dans notre intérêt, soit il est posé sans chercher d'autres récompenses, comme dit la prière de Saint Ignace, que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté de Dieu. Et j'ajouterais la sainte sagesse de Dieu, pour bien rappeler que la volonté de Dieu n'est pas aveugle, qu'elle est d'abord une sagesse. Soit nous agissons pour faire la sainte sage volonté de Dieu, soit nous agissons dans notre intérêt personnel. Soit le but est Dieu, soit le but est nous. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez tourner la chose dans tous les sens. La théologie morale nous enseigne qu'il n'y a pas d'acte moralement neutre. Cela a des applications pratiques. Par exemple, le jeûne. Le jeûne eucharistique. Est-ce indifférent de respecter un jeûne eucharistique d'une heure, de 3 heures, éventuellement de minuit? Il ne suffit pas de répondre « la loi actuelle n'exige qu'une heure, point terminé ». Lorsqu'on va communier et qu'on va recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, il est normal qu'on fasse le mieux possible les choses. Je ne vous fais pas une obligation particulière. Mais il est évident que lorsque les prêtres vous disent « telle chose est libre », ça ne veut pas dire « telle chose est indifférente ». Ça veut dire « c'est à vous de voir », ce qui n'est pas du tout pareil. Dernière application, c'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, dont le texte, l'enseignement le plus important, c'est « Gaudium et Spes ». En latin, ce sont les deux premiers mots du document conciliaire, la joie et l'espoir. Et la phrase complète, c'est celle-ci. La joie et l'espoir du monde de ce temps sont également la joie et l'espoir du peuple de Dieu. Et la suite du texte va chercher à persuader les chrétiens que toute leur perfection est de transformer le monde. Que toute leur perfection, toute leur satisfaction, toute leur plénitude sera d'avoir laissé quelque chose dans le monde. Et le Concile Vatican II va même oser dire que l'Esprit, le Saint-Esprit, mais il dit l'Esprit exprès, de manière à laisser des doutes, que l'Esprit a été donné aux hommes et à l'Église dans le but de transformer le monde. Le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, a dit que Gaudium et Spes était le document majeur du Concile. Et c'est bien vrai. C'est une inversion totale, complète. Et il est vrai que cette inversion flatte l'orgueil, l'égoïsme de l'homme, et que par conséquent, elle trouve facilement en nous une certaine complicité. Et c'est pourquoi je vous fais ce sermon pour réagir. Et pourquoi vous parlais-je de Vatican II, ne serait-il pas plus spirituel de vous donner de la doctrine et de la vertu sans redescendre encore dans Vatican II? Eh bien, parce que Vatican II, d'abord, est un réel danger. Deuxièmement, parce que c'est dans ces circonstances, dans la réaction à ces erreurs dangereuses, que le bon Dieu vous a placé pour mettre l'amour de Dieu au-dessus de tout. J'allais dire d'une certaine manière pour venger l'amour de Dieu. Venger l'amour de Dieu, c'est-à-dire poser des actes parfaitement gratuits. Et je ne me rappelle plus si dimanche dernier je vous ai parlé du martyr. Excusez-moi si je me répète. À quoi sert le martyr? À rien. Voilà un évêque savant, puissant, efficace, faisant un ministère extraordinaire, ayant converti des païens. Voici qu'à un moment, on lui demande peu de choses. Simplement de, peut-être marcher sur une croix, mais quelques grains d'encens devant une idole, ou plus simplement, comme c'est raconté dans Maria Winowska, de déclarer que il n'y a pas d'incompatibilité entre Karl Marx et l'Évangile, ou, comme a osé le dire je ne sais plus quel pape, il y a identité entre l'idéal liberté, fraternité, égalité, fraternité et l'idéal de l'Évangile. Disons qu'ils concourent au même but. Et voici que pour refuser quelques petits grains d'encens aux idoles, voici un homme extraordinaire qui faisait tant de bien et qui va disparaître de la face de la terre, et qui peut-être ne sera pas remplacé. Évidemment, si on raisonne avec la mentalité moderne, on va tout faire pour éviter qu'il meure, cet homme. Mais si on raisonne avec la vraie mentalité chrétienne, on va voir l'honneur de Dieu, et dans la crise actuelle, l'honneur de Dieu qui est à venger. Et on sait bien que Dieu est assez puissant pour envoyer d'autres évêques s'il le veut. On sait bien que Dieu qui a suscité cet évêque, ce futur martyr merveilleusement efficace, c'est de Dieu que cela vient et non pas de l'évêque. Et par conséquent, Dieu est assez puissant pour en susciter d'autres. Et c'est comme cela que le sang des martyrs a été une semence de chrétiens. Et si dans sa sagesse, Dieu permet qu'il n'y ait pas de remplaçant à cet évêque si bon et si extraordinaire, la sagesse de Dieu est sage, elle est raisonnable. On s'abandonne à cette sagesse. Et face aux hommes qui ne méritent peut-être pas l'Évangile, on venge la gloire de Dieu. C'est la gloire que je vous souhaite, mes bien chers frères. Et si vous n'avez pas le martyr du saint, vous avez certainement un martyr qui, face à la société moderne, est d'être traité de gens inutiles, de retardataires, que sais-je. Si vous vous attardez à répondre aux objections, vous êtes perdu. Nous sommes fixés vers Dieu et nous n'avons pas à regarder en arrière, c'est dans l'Évangile. Et nous n'avons pas à nous inquiéter. Et nous n'avons pas à répondre, nous fonçons vers l'éternité bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.